entrer du Mbujimayi au Kasai oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi. Le 15 septembre de chaque année, les Nations Unies célèbrent la Journée mondiale de la démocratie. Faire mieux, entendre les voix de la démocratie est le thème retenu cette année. Le but, attirer l'attention sur l'importance de la voix du peuple, à la fois exprimée directement et par le biais de leurs représentants élus dans des débats politiques, économiques et sociaux. Notons que la RDC est engagée dans le processus de démocratisation depuis bientôt 23 ans. Que pensez-vous de l'évolution du processus de démocratisation en RDC et que faire pour la consolider? Composez les 081 890 63 15 pour votre intervention en direct. Vous pouvez aussi nous rejoindre à notre adresse pa@radiocapi.net et vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Notez que Piero Elamegi et Paul Badianyam réalisent cette émission et J.R. Lungembo vous la présente et coordonne sous la supervision de Nicole Gaka. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci une fois encore de votre fidélité. Monsieur Kabemba, un observateur et analyste politique, disait, je cite, « La RDC est le principal réservoir des minéraux stratégiques au monde qui suscite la convoitise de puissances régionales et internationales. » Fin de citation. Mais le pays doit être protégé par un État véritablement démocratique. Jean-Pierre, vous êtes à Isiro. Vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Jean-Pierre, que pensez-vous de l'évolution du processus de démocratisation en RDC et que faire pour la consolider?
Oui, merci pour l'opportunité que vous nous accordez. Et nous, nous pensons que le processus de la démocratisation de notre pays, depuis un temps, surtout à partir de 2006, commençait à prendre des bandes à lire, donc connaissait une évolution. Juste après les 1 plus 4 de courant, au cours de cette période, notamment avec l'appui de la CIAT, les comités d'accompagnement de la transition. Donc nous avons senti la démocratie venir, nous avons vu la démocratie prendre une certaine évolution, notamment à travers la liberté de la presse Nous avons vu que les journalistes commençaient à prendre parole. Nous avons vu que l'opposition commençait à dire ce qu'ils pensent. Les activistes des droits de l'homme commençaient à parler et constater. Et cela montrait que la démocratie commençait à partir vers l'avant. Et nous avons vu les institutions telles que les parlements se mettre en place et consorts, et on sentait quand même une certaine manière ou d'une autre les débits des contrôles des gouvernements et la restauration des pouvoirs par les pouvoirs. Il y a un pouvoir qui a arrêté l'autre pouvoir. Mais depuis un bout de temps seulement, c'est là après seulement un peu de temps, et nous avons vu la courbe s'est renversée encore vers la case du départ, vers les choses qui nous ont emportés vers les éléments qui nous pouvaient la dictature durant la période de Mobutu et durant une longue période que nous avons traversée dans ces pays. Notamment, nous avons vu la liberté de l'expression qui commençait à s'éteindre de plus en plus par l'arrestation de plusieurs journalistes et par l'assassinat de certains. Et nous avons remarqué aussi l'assassinat des activistes des droits de l'homme, ou l'arrestation de certains aussi, et des complots qui s'est monté de plus en plus, où nous voyons les leaders de l'opposition être arrêtés fréquemment ou d'être accusés des choses que nous avons vu que c'était seulement pour nuire ou pour empêcher cet allier de la démocratie qui allait de l'avant. Et nous avons remarqué aussi les refus des manifestations publiques qui étaient organisées parfois par l'opposition ou par la société civile, et l'inégalité dans la justice et l'absence de séparation entre les trois pouvoirs traditionnels de l'État. Donc je vais citer ici les parlements et les législatives, l'exécutif et les pouvoirs judiciaires. Donc ces pouvoirs, nous ne sentons plus leur séparation. Quand les parlements disaient quelque chose, qui n'intéressait pas et l'exécutif décidait directement de la déchéance de la personne qui parlait contre les pouvoirs. Donc tous ces éléments nous ont montré que la démocratie avait pris une bonne allure, mais nous commençons à descendre de plus en plus, nous commençons à revenir vers la case du départ.
Merci beaucoup Jean-Pierre, parce que là on retient, vous avez évoqué les acquis et de l'autre côté vous avez parlé aussi des entraves. Ben alors qu'est-ce que vous souhaiterez pour que nous puissions consolider d'abord les acquis, parce que vous avez parlé de l'allure qu'on a déjà prise d'abord au niveau de la liberté de la presse, et puis l'opposition qui parlait, et aujourd'hui même les médias ont des émissions citoyennes qui peuvent, au fait, d'une manière ou d'une autre, participer aussi à la démocratisation du pays.
Oui, pour que nous puissions rentrer, je pense qu'il faut les autorités qui ont hérité de la longue processus que nous avons prise durant les 1 plus 4, devaient tout faire pour que, après le départ de la CIAD, donc les comités internationaux qui accompagnent la transition, que nous puissions être à mesure de consolider les éléments de la démocratie que nous avons prises. Donc la volonté des hommes politiques actuels de vouloir faire en sorte que la démocratie puisse aller de l'avant. Et aussi, d'autre part, que les médias puissent jouer son rôle. Puisque les médias, normalement, sont considérés comme le quatrième pouvoir dans notre pays. Mais si les médias jouaient vraiment très bien son rôle dans ces pays, nous allons voir que la population allait croître sa culture politique. La culture politique de la population, jusque-là, une culture politique qui ne permet pas encore la participation, qui ne met pas encore la population à participer dans la gestion de la chose publique ou à dénoncer. Et je pense que si nous attelions à ces deux éléments, selon mon humble avis, nous pouvons
On peut revenir sur les rails. Merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir appelé du Siro dans la province orientale. Enoch est à Kasumbalesa au nord Katanga. Enoch, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous avez la parole Enoch, parce que vous avez suivi Jean-Pierre qui a évoqué les acquis et aussi les entraves. Votre point de vue.
Oui, avant de commencer, je vais saluer votre fidèle auditeur Albomani, qui nous écoute en ce moment. Merci beaucoup pour la parole. Moi, je dirais ceci.
Voilà, on va prendre quand même Francis, parce que Enoch, c'est pas une émission de dédicace. Maître Francis, vous êtes avec nous à Kinshasa. Bonjour. Voilà, Maître Francis est avec nous. Voilà, comme je disais, nous allons quand même rappeler à nos auditeurs qui nous suivent en ce moment qu'ils peuvent également participer à cette émission. Le 15 septembre de chaque année, les Nations Unies célèbrent la journée mondiale de la démocratie. Faire mieux, entendre les voix de la démocratie est le thème retenu cette année. Le but, attirer l'attention attention des populations sur l'importance de la voix du peuple, à la fois exprimée directement et par le biais de leurs représentants élus dans les débats politiques, économiques et sociaux. Mais il faut noter que la RDC est engagée dans les processus de démocratisation depuis bientôt 23 ans. Alors la question principale du débat aujourd'hui, vous qui nous rejoignez, notez que nous cherchons à épingler donc la pensée des uns et des autres sur l'évolution du processus de démocratisation en RDC et que faire pour la consolider. Alors nous allons tout droit à Kananga, au Kasaï occidental, avec Job. Job, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Que pensez-vous de l'évolution du processus de démocratisation en RDC et que faire pour la consolider?
Écoutez, merci bien, messieurs les journalistes, pour avoir organisé une émission de ce genre. Quand on parle de la démocratie, lorsque nous définissons, nous qui fûmes étudiants, nous appelons ça comme un pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est que le peuple est le souverain premier. L'élect son pouvoir aux représentants. Ce sont ces représentants qui agissent ou qui agissent au nom de ce même peuple-là. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui, messieurs les journalistes? C'est un constat très amer que je suis en train de mettre par rapport au processus de démocratisation circulaire chez nous en RDC.
Oui, Job. Job, en fait, pour centrer un peu les choses, on peut parler des acquis et aussi des entraves. Donc on commence par les acquis.
Oui, je commence par des acquis et des avancées significatives par rapport au processus de démocratisation en RDC. Ça, c'est je jette un coup de flair, surtout à nos représentants qui ont vraiment favorablement agi au nom du peuple par rapport à certaines actions qu'ils ont menées en faveur de celui-ci. Mais par rapport aux défis, je suis en train, n'est-ce pas, de décrier par rapport aux relations d'action réciproques qui existe entre les institutions, notamment le Parlement, le gouvernement et l'appareil judiciaire. Mmh. Vous constaterez avec moi, monsieur le journaliste, que ces relations d'action réciproques ne vont plus en faveur du peuple congolais qui est représenté par ces institutions. Il y a vraiment des relations de fait privatisées, les parlements qui devraient contrôler le gouvernement. Il veut gouverner ensemble avec le gouvernement, prendre les mêmes décisions, mais quand est-ce qu'il aura le temps de contrôler le gouvernement qui va par exemple chevaucher? Si vous allez du côté de l'appareil judiciaire, il n'y a plus l'indépendance des magistrats que nous pouvons dire aujourd'hui au Goudon. Les défis sont vraiment multiples que je suis en train de décrire. Et par rapport à ce sujet, il y a des avancées négatives par rapport au processus de démocratisation en RDC.
Oui, parce qu'il y a 23 ans passés, c'est vrai, parce que vous avez parlé des acquis, et il n'y avait pas eu des élections. Aujourd'hui, c'est vrai, vous mettez ça quand même dans les comptes, mais vous auriez souhaité que, en fait, le processus aille encore plus loin, c'est-à-dire pour consolider l'évolution, il faudrait quand même qu'il y ait, comme l'a dit votre prédécesseur, Jean-Pierre Dissure, qui a parlé de la séparation du pouvoir entre les trois institutions. Merci beaucoup, Job, d'avoir appelé. Nous prenons Maître Francis, qui est à Kinshasa. Maître Francis, bonjour.
Bonjour JR et bon retour sur les ondes de la radio Okapi.
Je vous en prie Francis, vous avez la parole.
Ok, merci beaucoup. Le discours du président Mobutu du 24 avril 1990 sur la démocratisation du pays n'a été que la conséquence de la lettre des 58 pages adressée au président Mobutu par les 13 parlementaires qui seront arrêtés, je crois, le 13 décembre 1980 et de prison en prison. En 1982, précisément le 12 février, il y a eu la création de l'UDPF. Mais très concrètement et brièvement, le vent était d'abord interne, parce que le peuple aspirait déjà à la démocratie. Et le vent externe, c'était l'inspiration du président Michel Gorbatchev, principalement par la perestroïka et la glasnost. Maintenant, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, de 1990 à 1997, nous avions connu 3 transitions et 8 premiers ministres. Donc, c'est ce qui traduisait déjà une certaine instabilité politique parce que, premièrement, la politique était un métier où on devait aller rien que pour s'enrichir et non regarder dans le sens qui serait favorable à la population. Et puis, deuxièmement, en termes de problèmes, il y avait ce que je qualifie d'émasculation du Parlement. Le Parlement est devenu comme une chemise où on doit tailler à la taille du chef. Non, le Parlement, sur base de l'article 100 de notre Constitution, a deux missions, principalement légiférer et contrôler l'action de l'exécutif. Mais si celui qui est censé vous contrôler devient votre client, alors rassurez-vous qu'il n'y aura pas d'avancée significative. Donc, pour maintenant revenir à la démocratie telle que Abraham Lincoln, l'ancien président des États-Unis, le disait, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Premièrement, il faut d'abord observer une séparation stricte de pouvoir, telle que l'a énoncé Montesquieu, et je ne vais pas entrer à fond parce que mes prédécesseurs l'ont déjà dit. Deuxièmement, sensibiliser les acteurs politiques sur le bien fondé de la démocratie. Troisièmement, sensibiliser aussi la population, parce que aussi longtemps que la population ne comprendra pas qu'est-ce qu'est la démocratie, donc elle sera toujours dupée par des promesses irréalisables. Et le rôle du député n'est pas de jeter des ponts, construire des écoles, non. C'est enlever un peu la population de cette ignorance-là et informer la population sur les rôles réels du député, qui est rien que le porte-parole. C'est au gouvernement de jeter des ponts et non au député. Et puis, en dernière position, j'aimerais dire, dans le contexte purement congolais, nous constatons qu'il y a aussi un frein à la démocratie, c'est aussi la guerre à l'Est. Premièrement, il y a le processus de décentralisation qui va enraciner la démocratie. Mais avec la guerre, on risque de confondre l'aboutissement du processus de décentralisation et plus principalement le découpage territorial avec la balkanisation. Donc la toile de fond, c'est relever d'abord le défi de la guerre à l'Est, parce que le plus grand cadeau que l'on peut offrir à la République démocratique du Congo, c'est la paix. Sans la paix, on ne peut rien. Voilà un peu ma petite contribution pour aujourd'hui. J'ai dit et je vous remercie.
Merci beaucoup, Francis, Maître Francis, d'avoir appelé de Kinshasa. On va prendre Patient, qui est à Lubumbashi. Patient, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour Radio Kapi, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Kapi, c'est Patient Chitoko, à Lubumbashi au Katanga.
Vous avez la parole, Patient.
Oui, avant de commencer, je vais poser la question à notre invité qui nous dise tout d'abord qu'est-ce qu'est la démocratie. Et après la réponse, moi je vais continuer.
Voilà, parce qu'il s'agit là d'une question directe, nous profitons d'ailleurs pour saluer notre invité, professeur Bouébouakalala, Jean-Pierre, qui est déjà dans ce studio avec nous. Bonjour professeur.
Bonjour.
Alors c'est une question d'ailleurs qui tombe et qui vous accueille dans ce studio. Qu'est-ce que c'est la démocratie? Et vous avez suivi Maître Francis, Jean-Pierre et tant d'autres auditeurs qui ont parlé avant. Voilà, que répondez-vous à leurs préoccupations?
En fait, il y a une formule facile pour parler de la démocratie. C'est le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. Alors, dans ces gouvernements-là, l'idée essentielle, c'est que ceux qui gouvernent sont désignés par les peuples. C'est le peuple qui décide qui va le gouverner, lui confie un mandat. Ça veut dire que cette désignation n'est pas éternelle. On vous donne un mandat. Et pendant que vous exercez, vous essayez de travailler en intégrant l'opinion de la majorité et aussi en veillant que l'opposition soit préservée.
Mmh. Alors, en gros, c'est cela. Voilà, Patient, vous êtes avec nous. Allô, Patient? Voilà, il n'est plus en ligne parce que là, il attendait la réponse pour poursuivre son intervention.
Mais donc,
il a eu Francis de Kinshasa qui a parlé tout à l'heure de la guerre à l'Est, qui pourrait constituer aussi un frein à l'évolution du processus de démocratisation du pays et aussi le manque de sensibilisation des acteurs politiques et aussi de la population.
Oui, ça c'est un problème. Vous savez que la démocratie, c'est un processus. Donc nous sommes un État indépendant depuis 1960 et nous sommes en train de cheminer vers justement un gouvernement démocratique. Et dans ce cheminement, comme il s'agit d'un processus, donc c'est chaque jour qu'il faut reconstituer, c'est chaque jour que le Congolais doit veiller que ce processus puisse marcher, c'est chaque jour que le Congolais doit veiller que ceux qui gouvernent continuent à respecter, n'est-ce pas, les règles de jeu. Parce que vous savez, comme on dit, le pouvoir corrompt. Donc chaque jour, ceux qui gouvernent sont corrompus par le pouvoir, ils ont tendance à s'accaparer de trop de pouvoir, de peser trop. Alors, comme il faut équilibrer le pouvoir, il faut que la population, la société civile, la presse, la société savante, tous ces gens-là, veillent à parler, prêcher, inviter ceux qui gouvernent à veiller que la démocratie soit préservée.
Voilà, professeur, est-ce que vous pouvez nous brosser les tableaux de ce processus de démocratisation de la RDC et mieux les événements qui ont marqué chaque étape de ce processus?
Bon, dans notre pays, nous pouvons dire que le processus de démocratisation, d'abord, c'était en 60. Vous voyez dans quelles conditions nous avons eu notre indépendance. Et aussitôt après, nous avons eu un gouvernement issu des élections de mai 1960. Donc comme nous avons eu l'indépendance, avant l'indépendance, les Belges qui venaient de nous léguer cette indépendance ont organisé pour nous les élections afin d'avoir les gouvernants issus des urnes. Alors, ce processus a rapidement échoué parce que déjà en septembre, il y a le coup d'État de Mobutu, comme vous le savez, le Premier ministre Lumumba, le président Kassavubu se sont neutralisés, l'un a déposé l'autre et à la fin, le président Mobutu, au nom de l'armée, a mis en place le gouvernement des commissaires généraux. Ça, c'était déjà l'échec. L'échec de ce processus. On a essayé de relancer de nouveau. Alors nous avons fonctionné. Après, lorsque la crise a encore éclaté en 65, entre Kassavubu, le président de la République, et Tshombe, qui était aussi prétendu candidat à président de la République, qui avait la majorité au Parlement, le processus a de nouveau été interrompu et finalement, on a eu le deuxième coup d'État du président Mobutu. qui a mis en place un régime progressivement au fil du temps, que nous avons à la fin appelé dictature.
Jusqu'en 90.
Voilà. Alors, lorsque son système de parti unique, parti-État, un peu parti-État, n'a plus marché, alors, à ce moment-là, il a essayé de démocratiser. En fait, il a essayé d'introduire un peu le processus démocratique. Et ce processus, il n'a plus contrôlé ce processus, parce que la population était déjà dans une crise économique.
Déjà de la transition à cette époque-là, il y avait au moins 8 premiers ministres qui se sont défilés.
Voilà. Le fond du problème était économique. Mm-hmm. La crise économique était très profonde. Et c'est cette crise économique qui a fait que la population, en fait, s'est dressée contre le régime politique en place. Et donc, ce régime n'a plus été contrôlé jusqu'à ce que, finalement, ces processus aient échoué. L'AFDEL entre ici par, n'est-ce pas, les armes. Et à ce moment-là, nous avons tout jeté et on a dû recommencer de nouveau les discussions. Et l'AFDEL n'a jamais été accepté par les gens, les politiciens qui étaient sur place. Et c'est comme ça qu'il a fallu que tous les hommes politiques aillent s'entendre quelque part, créer un nouvel ordre politique. C'est cet ordre politique qui a été...
La transition de 1 plus 4.
Voilà, là, c'est à San City. Alors, les 1 plus 4 étaient là pour gérer la situation en attendant qu'on élabore une constitution qui allait mettre en place des institutions politiques acceptées par tout le monde. Et c'est cette constitution que nous avons aujourd'hui, et voilà un peu ce qui porte la démocratie.
Oui, on va revenir à vous, professeur Mbouyboua Kalala, pour avoir une idée, pour nous faire une idée sur les avancées réalisées dans ce processus, les avancées qui constituent actuellement les acquis donc de ce processus, et aussi voir quelles sont les défaillances, les faiblesses qu'on a dû enregistrer, comment capitaliser les acquis et comment améliorer les faiblesses pour qu'on atteigne vraiment l'aboutissement de ce processus. Kabongo est à Kinshasa, Wesley Akananga, Marcel Akisangani. Kabongo, bonjour.
Allô, bonjour. Mbote Djambo à tous les occupants de la radio de la paix.
Kabongo, vous avez suivi vos prédécesseurs ainsi que l'invité. Vous avez la parole.
Oui, les acquis, il y en a eu. Il y en a eu d'ailleurs beaucoup parce que même si aujourd'hui nous parlons à la radio, à la télévision, en condamnant ceux qui dirigent ou alors en essayant d'émettre un avis, c'est parce que effectivement cette démocratie là a commencé à exister à un certain moment, au début des années 2006, juste un peu avant les élections et après les élections. Mais l'évolution n'a pas tellement été fameuse parce que en réalité ceux qui prennent le pouvoir ou ceux que nous désignons pour nous diriger ne font plus, comme le professeur l'a dit, c'est le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple. Mais nous sommes plutôt rendus compte avec l'évolution, le pouvoir est du peuple parce que c'est lui qui le délègue, qui le donne aux gens, mais il n'est plus en faveur du peuple parce que tout ce qu'on fait n'est pas fait en faveur de ce peuple-là. Il est toujours plaintif depuis qu'on a accédé démocratiquement au pouvoir et ainsi de suite. Donc la plus grande difficulté, c'est que ceux qui sont là ne veulent pas assurer l'efficacité de la démocratie parce qu'en réalité, ça va obliger les gens à faire une alternance. Donc moi, je pense que pour consolider la démocratie, il faudrait que les lois, nos lois du pays, assurent ou obligent ou contraignent ceux qui dirigent à faire une certaine alternance. Il est vrai que c'est le peuple qui désigne, mais ceux qui ont le pouvoir par le peuple ne travaillent plus pour le peuple et ne font que tout pour se maintenir au pouvoir. Donc la démocratie, elle a existé, mais pour un temps, si déjà on ne sait pas écouter ce que l'opposition dit, je pense que c'est le plus grand problème. Ceux qui sont au pouvoir pensent qu'ils ont le monopole de la connaissance et de cette démocratie-là.
Voilà. Merci beaucoup, Kabongo, d'avoir appelé. Wesley, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour. Bonjour à Radio Kati et bonjour à l'invité de cette personne qui fait la question de la République démocratique du Congo.
Voilà, Wesley, pour vous, quels sont les acquis et quelles sont les faiblesses à améliorer plus tard, bon, les acquis à consolider?
Bon, en fait, le sujet est très important, mais nous devons savoir que la démocratie en RD Congo a été prônée, ça fait beaucoup d'années.
Voilà, Wesley, là, on vous suit à peine, là. On a un peu difficile à retenir ce que vous parlez, là. Si vous pouvez peut-être éteindre votre poste récepteur, et aussi. Bon, là, on ne saura pas continuer, on ne saura pas vous garder le plus longtemps possible à Nantes. Avec cette mauvaise qualité de communication, question de respecter les auditeurs qui vous suivent en ce moment. Marcel, Aïta Kisangani. Bonjour, Marcel. Marcel, vous êtes avec nous? Voilà, le temps qu'on revienne sur Marcel, on revient à vous, professeur Mouvakel est là. Vous avez suivi Kabongo tout à l'heure, qui a évoqué quand même quelques acquis et aussi les défis à relever.
Exact, il y a beaucoup d'acquis, il y a aussi des défis à relever. Hein. Parmi les acquis, moi je citerai notamment l'organisation des élections. Hein, donc au niveau national et provincial, ça c'est quand même un acquis important pour que ceux qui gouvernent viennent du peuple, pour respecter justement la logique démocratique. Il y a aussi le pluralisme politique, nous avons beaucoup de partis politiques, ça c'est aussi un acquis. Alors, ces partis politiques demandent aussi de bien fonctionner, hein, d'être soutenus pour qu'ils fonctionnent correctement, afin de redynamiser les institutions politiques, parce que les institutions politiques sont redynamisés lorsque l'opposition existe, que l'opposition les critique, ce qui les oblige à bien arranger les choses. Oui. Voilà. Donc, la critique de l'opposition, c'est un point positif. Et l'existence de cette opposition est même le thermomètre de la démocratie dans une société. Nous avons aussi le pluralisme dans la presse. Nous avons beaucoup de journaux, nous avons des télévisions, des radios privées, communautaires et autres. Nous avons aussi le pluralisme au niveau syndical, ça veut dire que les travailleurs peuvent s'exprimer, hein, donc manifester n'est plus une infraction, hein, comme telle, hein, donc un travailleur qui est mal payé peut s'exprimer. Donc ça, ce sont des acquis, ce sont des points positifs qu'il faut encourager dans le pays. Alors il y a aussi la liberté d'opinion, les gens s'expriment plus ou moins, ce qui permet aux gens même de critiquer, y compris de s'en plaindre. Parce qu'on a connu une époque ici où quand quelqu'un parlait seulement en politique, les gens de la sécurité pouvaient déjà l'inquiéter. Mmh. Et même à l'extérieur, dans les ambassades, les Congolais n'étaient pas libres de s'exprimer comme ils voulaient. Parce que les ambassades faisaient surtout ce travail-là, de recenser les Congolais, voir ce que ces Congolais avaient comme opinion, mmh, les filets, ainsi de suite. Donc là, c'est quand même important, hein, donc de le dire. Et je crois il faut encourager que ces acquis-là soient consolidés. Et c'est un effort qu'il faut chaque fois fournir. Alors, je crois aussi que à côté de ces acquis, nous avons aussi le point faible.
Des défis à relever.
Voilà, des défis à relever, qui sont aussi nombreux, hein, qui sont aussi nombreux. Et parmi les défis à relever, c'est d'abord, à mon avis, l'attitude à avoir vis-à-vis de l'opposition. Parce que, comme je vous dis, dans une société démocratique, le thermomètre, c'est la santé de l'opposition. Si l'opposition n'existe pas, alors vous êtes un très bon chef, sans opposant, alors on ne dira pas que vous avez la démocratie chez vous. Hein, si vous réussissez à taire tous les opposants, hein, donc vous allez avoir les prix de la non-démocratie dans votre société. Hein. Alors, c'est important que l'opposition soit là, mais c'est aussi important que les services publics sachent que l'opposition est là et que l'opposition doit exister, comme chez nous dans la Constitution. On reconnaît l'opposition, donc la partie unique est interdite. Donc, les services publics doivent savoir protéger l'opposition et non les traquer, hein, la police, l'armée, l'ANR, les services de renseignement. Leur travail, c'est de veiller sur tous les citoyens. Évidemment, protéger les pouvoirs, mais aussi protéger le fonctionnement des institutions politiques. Et l'opposition fait partie, justement, de ces fonctionnements-là.
Oui, avant que vous n'accédiez dans ce studio, il y a l'auditeur qui a parlé d'un défi à relever, un défi majeur, l'absence de la séparation du pouvoir. Il dit, il faut vraiment qu'on y travaille, parce qu'on a l'impression que c'est vraiment une complicité entre les trois pouvoirs. On ne sait pas qui fait quoi, et c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas vraiment à atteindre une vitesse de croisière dans ce processus.
Oui, la séparation des pouvoirs, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Alors, ça dépend aussi des régimes politiques. Alors, dans le cas de notre régime qui est semi-présidentiel, il est difficile de les séparer totalement parce que c'est ceux qui ont gagné les élections qui forment le gouvernement et qui sont sur le Parlement. Ce qui fait qu'entre le Parlement et le gouvernement, il y a beaucoup d'accointances. C'est la même couleur. Et alors, c'est le pouvoir judiciaire qu'on peut attendre que lui devienne effectivement indépendant. Voilà. À ce moment-là, on fonctionne de cette manière-là. Donc, c'est selon le régime, en fait. Cette séparation reste le principe, mais le degré de séparation dépend un peu du régime en place.
Oui, Jean-Pierre Aïssirou a dit ceci, lui, il a constaté quand même des avancées très significatives depuis 2006, mais après 2010, il sent comme si la courbe va dans le sens contraire, c'est comme s'il n'y a plus d'efforts qui sont faits. Est-ce que vous, en tant qu'analyste politique, vous avez pu observer quand même, faire des observations par rapport à ça?
Oui, je crois que c'est un peu le fait de ceux qui exercent les pouvoirs. Même quand on parlait du régime de Mobutu, c'était toujours ceux qui étaient autour de Mobutu qui étaient en fait à la base de tout ça, qui parfois refusaient d'accepter que la société fonctionne de manière démocratique et qui faisaient pour lui les papiers, qui lui faisaient peur, ainsi de suite. Et cette tendance est toujours là. Vous savez, c'est un problème des hommes. Ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont pas au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir essaient de se conserver le plus longtemps possible. Mais alors, la manière de le faire, n'est-ce pas, dépend aussi un peu de la majorité, de ceux qui sont au pouvoir. Parce qu'il faut que ceux qui sont au pouvoir veillent à ce que la société fonctionne de manière démocratique. Ça veut dire qu'ils n'exercent pas des pouvoirs de manière à écraser l'autre. Et c'est cela, justement, les risques qu'il y a quand vous avez le pouvoir. Quand vous exercez le pouvoir, vous avez le droit de décider, celui-là, arrêtez-moi, celui-là, on l'arrête. Faites ceci, on fait. Et si vous ne faites pas attention, parce que dans la société, il y a toujours des gens qui vont vous critiquer, par jalousie, parce que parmi les caractéristiques du pouvoir, il y a aussi les conflits. Mm-hmm. Quand vous exercez le pouvoir, il y a des gens qui sont jaloux, il y a des gens qui vous envient, parce que c'est un seul poste, tout le monde voudrait l'avoir. Et quand vous devez suivre tout ce que ces gens critiquent, tout ce qu'ils disent, y compris les mensonges aussi, hein. Il y en a qui inventent des choses. Mm-hmm. Alors, si vous devez chaque fois traquer tout ce qui invente des choses sur vous, mm-hmm. alors à la fin, on dit, voilà, c'est la dictature, et ainsi de suite. Ça, c'est le risque qu'il y a quand on a les pouvoirs.
Oui. Donc, alors, professeur, on va encore revenir pour l'autre série des auditeurs, mais je veux juste vous rappeler une citation d'un professeur, monsieur Kabemba, qui est aussi un analyste politique, qui a dit, la RDC est le principal réservoir des minéraux stratégiques au monde, qui suite la convoitise des puissances régionales et internationales, le pays doit être protégé par un État véritablement démocratique.
Oui, je crois qu'il a raison dans le sens où un État qui est démocratique, c'est un État où tout le monde s'exprime et où tout le monde
se retrouve.
Voilà, tout le monde se retrouve.
Il y aura moins de frustration.
Voilà, il n'y a pas de gens qui chuchotent. Celui qui a quelque chose à dire, le dit, attire l'attention et on essaye, n'est-ce pas, de protéger le bien commun ensemble. Donc, ce n'est pas comme la propriété d'une partie et l'autre partie est en train de râler. Hein, donc, dans ce sens-là, effectivement, lorsque vous mettez en place une société démocratique, tout le monde s'exprime, le bien de nous tous les Congolais, devient effectivement notre affaire. Tous nous veillons à les protéger, à les défendre. Je crois que c'est l'essence de la cohésion qui est recherchée.
Et d'ailleurs, à travers les concertations nationales, on va aborder cette question d'ailleurs lundi pour savoir un peu comment chacun de nous commente un peu cette actualité.
Exact.
Voilà. Alors,
exact.
Franklin était à Bukavu, Marcel à Kisangani et Mangaya à Gemena. Franklin, bonjour.
Bonjour Monsieur J.R. et bonjour à notre invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kari.
Votre point de vue, Franklin.
Oui, moi je peux dire qu'il y a eu des avancées et des ratés. Par rapport à, si on quitte les années jusqu'en 2006, là on peut dire vers ces années-là, on a eu des avancées. Mais avec les élections de 2011, on a vu qu'il y a eu un peu de recul pour notre démocratie. Mais au moins on peut dire que non, nous sommes en train d'avancer petit à petit, bien qu'il y ait ce recul-là, mais nous sommes en train d'avancer parce qu'auparavant, on n'assistait pas à l'élection ou aux élections des députés ou des représentants du peuple, mais aussi il n'y avait pas de pluralisme politique. On a assisté à un moment où quelqu'un s'est dit il est élu président des partis politiques et le président directement devient le président de la République. Là, on a assisté aussi à ce pluralisme politique. Ça aussi, c'est une avancée. Mais là où les bas blessent, c'est par rapport au fond même de notre démocratie. Aujourd'hui, si vous regardez bien, la séparation des pouvoirs ne reste qu'au niveau théorique. on n'a pas vraiment une véritable séparation des pouvoirs. On voit que l'exécutif s'immisce beaucoup plus dans le parlement, dans les législatives. Et là, les parlementaires, eux aussi, se laissent quelquefois faire. Ils ne prennent pas leurs responsabilités. Là, ce sont les défis à relever. Deuxième défi à relever, c'est par rapport à l'état des droits. Aujourd'hui, on n'a pas véritablement un droit, un état des droits où on peut dire que c'est les droits qui priment. Là aussi, l'exécutif s'immisce beaucoup plus dans les droits. Il y a des parodies de justice, il y a des arrêts qui sont rendus qui ne reflètent rien de la démocratie. Et donc, moi, je pense que par rapport aux reculs, il y a eu des reculs, et par rapport aux avancées, on a pu noter peu d'avancées que des reculs. Mais au moins, par rapport à l'élection, on peut dire que la démocratie ne se construit pas un jour. Et d'autres choses que je peux dire, il ne faut pas dire que non, on se limite seulement au niveau des élections. Parce que vous allez vous rappeler qu'il y a un adage, un professeur qui avait dit que toutes les démocraties organisent les élections, mais toutes les élections ne sont pas démocratiques. Et si on se limite seulement au niveau des élections, dire que non, nous avons connu des élections, mais il faut voir quel type d'élections. Et donc, par rapport à 2006, on peut dire oui, il y a eu un peu d'avancée, mais le 2011, nous avons connu beaucoup de gâchis par rapport à notre démocratie.
Merci beaucoup.
Je voudrais proposer pour finir, il faut essayer un peu de limiter. Parce que lorsque les gens ont donné leur argent, on voit pendant la campagne électorale, l'argent circuler. Donc moi, je pense qu'il faut limiter l'influence de l'argent. Là, le peuple doit être élu par le peuple à cause de leur projet et non à cause de leur argent.
Voilà, donc vous rejoignez tout à l'heure Kabongo qui parlait de la sensibilisation des acteurs politiques et aussi de la population. Il faut sensibiliser les populations pour qu'ils comprennent un peu tous les contours des élections et aussi le processus démocratique. Donc il faut impliquer la population. Merci Franklin d'avoir appelé de Bukavu. Marcel, vous êtes à Kisangani. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Quels sont selon vous les acquis de ce processus de démocratisation de la République démocratique du Congo et aussi les défis qui restent encore à relever?
Merci de la parole à m'accorder. Et il est certain que le bilan de la démocratie en République démocratique du Congo est mitigé. Et je voudrais aussi souligner que l'on doit aussi comprendre que la démocratie n'est pas synonyme de l'impunité. Quand je vois les interventions, quand je fais la lecture des interventions de mes prédécesseurs, je me rends compte finalement qu'on risque de confondre la démocratie à l'impunité, notamment les interventions de mon intervenant du Siro. Et quand il invoque certains cas isolés, notamment l'arrestation des journalistes, les manifestations publiques et autres, mais je me dis que tout cela, les journalistes doivent aussi observer les règles démocratiques. Ce n'est pas qu'on doit se permettre à dire de n'importe quoi quand on est aux médias. Et lorsqu'il faut aussi parler des arrestations pour l'interdiction de manifestations publiques, oui, les manifestations publiques sont un droit, mais ce n'est pas un droit absolu. Et ce droit est aussi soumis à des limitations, notamment pour la sécurité, et il faut aussi apprécier les moments, donc l'opportunisme pour que la manifestation soit possible. C'est ça, c'est l'idée. Et pour d'autres, bon, je ne voudrais pas revenir là-dessus. Hein? Ce qu'il faudra pour promouvoir la démocratie davantage dans notre pays, moi je pense que dans les chefs de politique, par-delà, c'est les propositions faites par mes prédécesseurs, notamment la séparation nette des pouvoirs, tout ça. Moi aussi, je proposerais surtout aux politiques de bien vouloir éviter d'une part l'abus de la majorité. Et c'est quoi l'abus de la majorité? C'est lorsque ceux qui se disent majoritaires tentent toujours à prendre des décisions collectives, en fait, qui ne cadrent qu'avec leurs intérêts égoïstes, mais ne rentrent pas dans l'intérêt général de la population. Et de l'autre part, il faudra aussi éviter l'abus de la minorité. C'est-à-dire, lorsque ceux qui sont minoritaires, qu'on appelle les opposants, s'opposent toujours même à des initiatives qui peuvent apporter des solutions aux problèmes des citoyens, mais voulant seulement bloquer pour on ne sait pas pour quel intérêt, parce qu'ils sont opposants ou appelés opposants, donc ils doivent s'opposer à tout. Et donc je pense que ce sont là des choses qui retardent le processus de la démocratisation de notre pays, qu'il faudra dans l'avenir éviter, et je pense que ça serait peut-être une meilleure façon d'agir et de promouvoir notre jeune démocratie.
Merci beaucoup Marcel, et un grand bonjour à tous ceux qui nous suivent à Kisangani. Mangaya, vous êtes à Gemena, bonjour.
Ah, merci beaucoup. Bonjour, monsieur le journaliste.
Votre point de vue?
Oui, mon point de vue, je pense que les amis, ceux qui sont sur les ondes de la radio Capi ont tout dit. J'ai compris que le professeur, donc l'invité qui est avec vous, a tout défini brièvement ce qui signifie la démocratie. Mais je vais ajouter que la démocratie, normalement, c'est la sécurité, c'est le respect des droits de l'homme, c'est l'acceptation, l'échec, et accepter aussi que les autres gouvernent à votre place si vous ne parvenez pas à réussir là où vous êtes en train de faire. Mais, monsieur le journaliste, je pense que s'il n'y a pas le respect des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la démocratie. Il n'y a pas la démocratie. Alors, prenons par exemple, ici, quand on offre l'emploi, on demande à ceux qui sont des anciens ou des gradués de postuler. Alors, on vient, on rencontre déjà que donc tout le monde qui a postulé n'est pas allé, mais les inconnus sont là. Qu'est-ce que cela veut dire? Il n'y a pas la démocratie. Donc, Mobutu n'avait pas mal fait. Il a accepté la démocratie. Mais aujourd'hui, c'est au contraire. C'est pourquoi je pense que...
Mais tout de même, Mangaya, vous reconnaissez quand même qu'il s'agit là d'un processus. La démocratie, c'est tout un processus.
Oui, c'est un processus, bien sûr.
Oui.
Il est stable qu'il ait aussi le respect de ce processus-là, monsieur.
Voilà, donc là vous évoquez l'injustice quant à, au recrutement, hein, qui le recrutement qui se font c'est là, vous évoquez l'aspect injustice qui peut peut-être être aussi un défi à relever dans le processus de démocratisation de la RDC, c'est ça?
Ah oui, c'est ça bien sûr.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Ceux qui sont au pouvoir acceptent leur échec et de démissionner. Laissez aussi la place.
En fait, c'est une culture. C'est une culture. Je crois que je comprends bien vous demander qu'il y ait cette culture d'acceptation de soi ou encore d'accepter l'alternance au pouvoir. Merci beaucoup à Mangaya d'avoir appelé de Gemena. Jules, vous êtes à Bukavu. Bonjour, Jules.
Bonjour, JR. Bonjour, les auditeurs de la radio de la paix.
Votre point de vue.
Oui, mon point de vue, c'est ceci, monsieur JR. Ce que je pense du processus de démocratisation dans notre pays en RDC, c'est ceci. Le processus de démocratisation est en train de tourner autour d'un cercle vicieux, en ce sens que ceux qui sont censés de protéger ou de faciliter sa bonne marche sont eux-mêmes en train de mettre le pot de banane sur ce qui est. Pourquoi je m'exprime ici? Je vais d'abord commencer par vous journalistes, parce que je vous écoute souvent dans de multiples chaînes et vice versa.
Mm-hmm.
Vous savez, actuellement, parler au sujet de la vérité, dire la vérité dans ce pays, ce n'est pas une chose facile. Combien de journalistes et messagers qui sont été en prison actuellement pour avoir dit la vérité de ce qu'ils ont vu sur le terrain? C'est toute une foule de journalistes. Combien de journalistes ont été tués?
Oui, Jules. Là, ça fait aussi débat parce que on ne sait pas l'information qui est diffusée par un journaliste. On ne connaît pas la source. S'il s'agit là peut-être d'une diffamation ou encore imputation dommageable, je crois que quand on tombe sous ces coups, même l'éthique, la déontologie ne permettent pas aux journalistes d'aller dans ce sens-là. Donc il faudrait, ce que vous appelez peut-être vérité, ne l'est pas forcément. Ben c'est pas peut-être pas évident, hein. Mais c'est quand même un débat qui entre quand même dans le jeu. Mais si je comprends bien, vous rejoignez certains auditeurs qui ont.
Écoutez, monsieur Pierre. L'éthique et la déontologie journalistique, ça ne permet pas de mentir. Là, je ne peux pas vous contredire.
Oui.
Mais vous savez, les journalistes qui ont menti. et les journalistes qui ont dit la vérité se retrouvent en prison actuellement. Je pense que vous n'allez pas, vous n'allez pas me refuser de dire ça.
Voilà, donc si je comprends
pourquoi alors il y a, pourquoi alors il y a toute une foule de radios de l'opposition qui sont réduites au silence. Là, dans ce pays, ça non, si c'est de la démocratie, vraiment là, je pense que c'est pas facile.
Donc pour vous, si je comprends
bien, comment voulez-vous qu'on parle de la démocratie alors que la justice est corrompue?
Voilà. Si je comprends bien, Jules, oui. Si je comprends bien, votre souci, c'est de voir, l'état des droits s'établir dans ce pays, c'est ça?
Tout à fait, tout à fait. Il faut qu'il y ait un état des droits. Il faut qu'il y ait vraiment un état des droits digne de ces noms.
Voilà, merci beaucoup, Jules, d'avoir appelé de Bukavu. Nous prenons Kabacha pour terminer cette série des auditeurs, et qui est à Bukavu également. Kabacha, bonjour. Kabacha, vous êtes avec nous? Voilà, 081-890-6315.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, une fois encore, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Et si vous nous rejoignez, bienvenue sur la fréquence de la paix. Nous avons dans ce studio Jean-Pierre Mbouiboua-Kalala, qui est analyste politique. Vous avez suivi les inquiétudes des uns et des autres, professeur. Alors, comment on peut orienter, et comment on peut encore comprendre ces acquis et les défis à relever par rapport à... C'est vrai que c'était un peu... Il y avait beaucoup de passion dans tout ça. Et on sent quand même que chacun a sa façon de voir, disons, l'évolution de ce processus de démocratisation en RDC.
Oui, chacun a sa façon de voir le processus de démocratisation, et c'est pour cette raison qu'il est important que dans le pays, au niveau des chaînes de télévision, des radios, on fasse aussi des émissions qui éduquent les gens. Des émissions, on parle quand même de cette démocratie, on essaie d'expliquer aux gens d'où nous venons avec notre pays, pour permettre à tous les citoyens de s'imprégner de leur histoire politique et de pouvoir intervenir utilement dans la construction de ces démocraties. Sinon, les gens, chacun réagit en fonction de ses informations, de la connaissance qu'il a de la démocratie. Et donc, je crois que c'est ce qui ressort à travers ces interventions que nous suivons. Mais donc, moi, je pense que chaque pays construit, n'est-ce pas, son processus démocratique en prenant les éléments essentiels, hein, par exemple la question des droits et libertés. Hein, c'est important que tous dans la société nous comprenions que les droits doivent être protégés, les libertés doivent être sauvegardées. Même si vous êtes aux affaires aujourd'hui, au pouvoir, vous avez intérêt que ces droits-là soient préservés. Nous avons vu les mobutistes qui ne comprenaient pas ces choses-là. Et quand le personnel politique a été changé en 97, à l'arrivée de l'AFDEL, ils se sont retrouvés dans les camps, n'est-ce pas, des autres. Et à ce moment-là, ils avaient besoin que les droits leur soient garantis. Et donc c'est pour dire que lorsqu'on parle de droits et libertés, ça ne concerne pas un individu. C'est la société qu'on est en train de construire. Et ça va aider tout le monde. Hein, à tour de rôle, même ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, demain ils seront pas aux affaires parce que le pays est en marche, donc on ne reste pas éternellement aux affaires. Il y a d'autres aussi qui vont venir, et lorsque vous n'êtes plus aux affaires, vous avez besoin que ceux qui sont aux affaires respectent ces droits-là, les libertés des citoyens. Voilà. Donc c'est important.
C'est très important. Alors il y a Franck qui a parlé même de qui évoquait l'adage qui dit toutes les démocraties organisent les élections, mais toutes les élections ne sont pas démocratiques. Donc c'est vrai que les élections c'est vraiment le soubassement, hein, pour permettre à ce que la démocratie soit consolidée, mais il faudrait aussi que ces élections soient organisées démocratiquement.
Oui, mais je crois quand il dit démocratiquement, moi je vois surtout, hein, parce que vous savez dedans Hein, souvent, on parle des élections qui doivent être libres, démocratiques et transparentes. Hein, donc, ces trois qualificatifs, c'est complète. Démocratique, c'est l'aspect participation. Il faut que les élections soient démocratiques, c'est-à-dire qu'elles doivent être ouvertes à tout le monde. On ne doit pas empêcher les gens à venir participer. Là, c'est l'aspect démocratie qui est là. Mais les élections doivent aussi être libres. Donc, les gens doivent venir voter librement. Et en même temps, elles doivent être transparentes. Ça veut dire que tout le monde doit avoir les assurances que les élections ne sont pas truquées, les élections ne sont pas organisées en cachette en faveur de tel ou tel autre candidat. Lorsque ces trois qualificatifs sont là, effectivement, les élections sont là. Je comprends que la situation est bien, les élections ne sont pas démocratiques, etc., mais ça ne dit pas grand-chose, parce que ça veut dire tout simplement que les élections, toutes les élections, comme je l'ai dit, l'aspect participation, ça c'est l'aspect démocratique des élections. Mais il n'y a pas que ça, il y a la transparence. Et la liberté aussi.
Et comment commentez-vous le thème de cette année, parce que les Nations Unies célèbrent la Journée mondiale de la démocratie. On dit faire mieux attendre les voix de la démocratie. C'est le thème donc de cette année. Alors le but, c'est attirer l'attention de tout le monde sur l'importance de la voix du peuple, à la fois exprimée directement et par le biais de leurs représentants élus dans les débats politiques, économiques et sociaux.
Oui, je crois que c'est cela. En fait, là, on met l'accent sur l'essentiel même de la démocratie. Dans la démocratie, tout le monde ne s'exprime pas. Nous, les peuples, nous nous exprimons à travers nos élus. Ce sont nos représentants qui parlent au nom du peuple. Parce que tout le monde ne peut pas participer. D'abord, il y a la limitation technique. Tout le monde ne peut pas venir. Et la limitation psychologique. Tout le monde n'est pas disposé à gouverner. Mais donc, dans ce sens-là, les élus doivent être protégés. Les élus doivent être entendus par ceux qui gouvernent. Parce que c'est en fait la question du Parlement et de l'exécutif. De temps en temps, on n'écoute pas les parlementaires. Or, les parlementaires parlent au nom de ceux qui les ont élus. Donc, l'essentiel dans une démocratie, c'est que ceux qui sont les représentants du peuple agissent, soient écoutés.
Voilà, nous allons prendre les deux derniers auditeurs qui auront chacun une minute avant de conclure cette émission. Docteur Bintou, vous êtes à Béni et Docteur Marcel dans le Bandundu. Docteur Bintou, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bonjour à tous les auditeurs. Voilà, vous avez une minute.
Oui, merci. Bon, une minute. Bon, disons que dans notre pays, la démocratie ne marche pas à cause des régimes non démocratiques qui viennent à la tête du pays, et généralement par les armes, et font semblant d'être des démocrates aux armes cachées. Bon, nous ne pouvons pas faire la revue de tout ce qui s'est passé depuis l'indépendance. Vous voyez que Patrice Emery Lumumba a gagné les élections de 1959. Les Belges ont trouvé l'astuce pour l'écarter en tenant compte de son âge. Le président Mobutu est venu, a fait 32 ans au pouvoir, tout en imposant ce qu'il voulait à la population congolaise.
Docteur Bintou, s'il vous plaît, parce que là, il y a notre invité qui avait déjà brossé les tableaux. Allons tout droit au but. Les acquis, pour vous, les acquis de ce processus, et quels sont les défis, selon vous? Donc, prenons les deux rapidement, parce qu'on n'a plus assez de temps. On commence par les acquis et puis on termine par
la consolidation de la démocratie dans notre pays. Il faut que la communauté internationale puisse faire pression sur nos régimes afin de respecter leur mandat, qu'ils se retirent au pouvoir, quel que soit leur bilan, après la fin de leur mandat. Ça, c'est qu'il y ait l'alternance au pouvoir. Des problèmes, il faut que la volonté du peuple soit respectée, puisque jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais eu un président qui a été réellement accepté par la population.
Voilà, écoute, docteur Bintou, on va quand même entrer dans les défis à relever. Vous avez dit, c'est l'alternance au pouvoir, c'est quand même un grand défi à relever, que tout le monde puisse vraiment s'imprégner de cet aspect des choses. Et parce qu'on n'a plus assez de temps, on prend docteur Marcel rapidement pour terminer. Docteur Marcel, bonjour. Voilà. Professeur, on va conclure avec vous. C'est vrai, vous avez parlé tout à l'heure, il y a eu des acquis et il y a aussi des défis. On va rappeler cela pour ceux qui viennent à peine de nous rejoindre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour consolider ces acquis et, d'autre part, que faire pour améliorer les défis à relever?
Moi, je pense qu'il est important que tous les Congolais travaillent en faveur d'une société démocratique. Que ceux qui sont aux affaires et ceux qui ne sont pas aux affaires travaillent pour une société juste, une société où les droits et les libertés sont garantis, où les ceux qui exercent le pouvoir sont élus par le peuple réellement, et où les citoyens ont quand même l'espace pour s'exprimer, hein, où les citoyens peuvent aussi accéder à l'épanouissement, hein, l'épanouissement au niveau économique, socio-économique. Hein, dans un pays, les gens, tout pouvoir doit veiller à ce que le bien-être de la population soit préservé, soit assuré. Donc il faut que tout le monde travaille dans ce sens-là. Ce pays appartient à tout le monde. Nous devons travailler pour le rendre un pays où fait beau vivre pour les Congolais et pour les étrangers qui vivent chez nous.
Vous avez écrit un livre intitulé « Institutions politiques de la République démocratique du Congo, des origines à nos jours ». Je crois que les auditeurs qui nous suivent, ils peuvent aussi, en tout cas nous recommandons de lire cet ouvrage, qui pourrait leur donner encore beaucoup d'informations sur le processus de démocratisation en RDC. Donc je crois que ce livre, on peut le retrouver aux éditions universitaires africaines.
Exact.
Voilà, merci professeur d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir accepté d'orienter les inquiétudes des uns et des autres. On prend rendez-vous peut-être avec vous prochainement.
Merci, et c'est moi qui vous remercie.
Allô? Mais, ils ne répondent pas?
Voilà, nous disons également merci à vous tous d'avoir participé à ces débats. Merci également à Paul Badianiam qui a assuré la mise en onde de cette émission réalisée par Pierrot et la Mégie sous la supervision de Nicole Ngaka. Prière de réécouter cette émission sur www.radiocapi.net. Début des travaux des concertations nationales jeudi dernier à Kinshasa, mais l'opposition congolaise boycotte cette rencontre politique et la société civile en province orientale ainsi que la coalition nationale de la Cour pénale internationale dénoncent notamment certaines irrégularités. Alors comment commentez-vous cette actualité? C'est le débat de ce lundi 16 septembre 2013. Prenez déjà rendez-vous avec nous, envoyez-nous vos commentaires sur notre page Facebook. Vous pouvez aussi le faire à pa@radiocapi.net. D'ici là, portez-vous bien.